coup, elle a commencé parce que.
Bon. Alors, je m'appelle. Je suis né dans le Loiret, en Orléans. J'ai 31 ans et je suis en fait de commerce dans un grand magasin. Je suis vendeur en confection, preneur de mesure en même temps. Merci. À part ça, je ne vois pas grand chose à vous dire.
La profession de vos parents.
Comment?
La profession de vos parents.
Profession, mon père est menuisier béniste, ma mère sans profession.
Je m'appelle Patrick. Je suis né à Orléans, dans le Loiret. J'habite à Orléans. Je travaille chez Thermor comme OSA, avec un métier de taulier. Mes parents, mon père est menuisier béniste, ma mère sans profession.
Je m'appelle Ginette, j'ai 37 ans, je suis née à Orléans. Mon père est décédé, ma mère est à la retraite, elle a 71 ans. Je suis secrétaire, je suis maman, j'ai 4 enfants.
Je m'appelle Marcel. Je travaille dans une grosse entreprise d'Orléans comme ouvrier. Je suis né dans une commune à côté d'Orléans, à la chapelle Saint-Mesmin. J'ai 29 ans. Mes parents sont cultivateurs.
Bon, alors, je vais poser des questions. D'habitude, je pose des questions seulement à une personne. Alors, vous répondez. Comme vous voulez, mais vous faites attention de ne pas trop parler ensemble parce qu'autrement on ne pourra pas distinguer
du micro.
Alors, d'abord je vous demande si vous plaisez à Orléans.
Oui, c'est assez plaisant, un peu bourgeois malgré tout. Pas une ville qui est très ouverte. Hein. Point de vue distraction pour les jeunes, choses comme ça, c'est assez mince. Hein. À des heures, tout est fermé dans la ville.
Oui. Oui, c'est notre avis. Je pense à la pas mal d'Orléanais. La ville a fait des efforts de construction, mais en définitive, elle ne fait rien en direction des jeunes. Notamment, il y a une piscine, une très malheureuse piscine, qui ne convient absolument pas à la quantité de jeunes qui résident maintenant à Orléans, à les universités. Non, c'est pas, ça ne convient pas du tout.
Oui, moi je suis entièrement d'accord. Mais
c'est... Est-ce qu'il y a des choses en faveur des petites communes environnantes, vous avez Fleury-les-Aubrais, Saran, la chapelle Saint-Mémin. Leur début de gère moins important que la ville, ils arrivent à faire des constructions. Saran. Non, Fleury va faire une piscine, par exemple. C'est quand même des choses que dans une grande ville de 100 000 habitants maintenant.
C'est-à-dire qu'on plante beaucoup de fleurs aussi.
Oui, alors, les fleurs, bien entendu, ça a coûté très cher. Bon, pas beaucoup de résultats, hélas.
Enfin, pour espérer qu'avec l'arrivée à Olivier du centre universitaire, ça va apporter un peu de jeunes. Sans ça, au point de vue distraction, faut dire qu'il faut vraiment sortir de la région pour aller s'amuser un peu. Le samedi, pour aller au bal, il faut partir à 20 ou 30 km d'ici.
Vous pouvez dire un peu comment vous vous amusez, enfin raconter samedi dimanche par exemple chacun.
Vous employez. Personnellement le samedi, on ne sort pas chez moi puisque je suis marié, j'ai un enfant. Alors, on regarde la télévision. Le dimanche, la sortie, c'est le cinéma. Et alors une exception de temps en temps, un petit tour au bal.
Moi, je suis enfermé toute la semaine dans un magasin, alors. Dès que je peux avoir un petit moment de libre, un après-midi, une matinée, soit qu'on va à la pêche ou quand il fait beau, on va se baigner, par exemple, dans la région, il y a du beaux étangs. Alors c'est quand même assez agréable, quoi. Sur les distractions, 4 cinémas pour 100 000 habitants, si on y va tous le samedi soir, on n'aura pas beaucoup de place. Hein.
Oui, moi je profite de mon samedi pour faire du ménage, du fait que j'ai des enfants. Et puis le dimanche, eh bien quand il fait bon, on va se promener en voiture. Et la télévision, après le soir, en rentrant, c'est tout.
En ce moment, c'est la période des champignons, par exemple, à 10-15 km maximum.
Toi en Sologne.
Soit en Sologne ou dans les, un peu plus haut, trouve du pied de mouton, des choses comme ça. Pour celui qui aime la nature, c'est plaisant. Quoi.
Oui, mais moi, le samedi, je fais mon jardin, j'ai un petit jardin, avec des fleurs et du gazon, quoi. Puis avec quelques légumes.
Ça, c'est le bon français.
Et
ça.
Puis, puis le dimanche, eh bien, on va faire un tour quoi, dans la région. Au bord de la Loire, il y a toujours quelque chose à visiter, quoi, quand même. Ou alors la Sologne.
Surtout qu'il y a une bonne partie des Orléanais qui connaissent à peine leur région, quoi.
Oui, souvent, bien moi, pour chercher des choses, et puis...
On pourrait pas demander si on connaît les bas-reliefs de la statue de Jeanne d'Arc. Moi, personnellement, j'ai jamais prêté vraiment attention.
Est-ce que vous habitez dans le même quartier, ou bien...
Non, je suis...
Moi, je suis plus haut à l'Argonne.
Moi, je suis au sud, du côté de la Loire.
Ou à l'ouest, vers la Chapelle.
Et c'est presque les opposés. Hein.
C'est quatre coins différents de la ville.
Et vous venez dans le centre à quelle occasion?
Pour le travail, une part. On savait faire les courses, bien entendu, à peu près que... Dans les grands
pour les courses, c'est ça, tous les grands magasins, ça se trouve dans le, oui. Dans le centre.
Vous avez le centre Leclerc, il y a Suma de l'autre côté de la Loire. Les gens vont dans les grands magasins, c'est plus intéressant parce que les petites épiceries de quartier.
Ce qui crée d'ailleurs un tas de difficultés pour circuler dans la ville d'Orléans.
Surtout le samedi.
Surtout le samedi.
Oui, ça.
Est-ce que vous auriez aimé vivre dans une autre ville?
Ah moi oui, personnellement, oui, j'aurais aimé être au bord de la mer, oui. Plus au sud, dans une ville plus chaude.
Bon, moi je vous connais ici.
Les circonstances de la vie ne sont pas toujours adéquates pour pouvoir déménager comme ça, comme bon nous semble.
Oui, ces problèmes de circulation en ville, ça devient impossible.
Celui qui veut habiter dans une autre ville, ça dépend des conditions à trouver dans cette ville.
Oui, et puis il faut être certain d'y trouver un emploi.
Oui, il faut être certain d'y trouver un emploi à ce moment-là, ou alors changer de ville vraiment pour aller travailler. Sans quoi, il n'y a pas de raison apparente.
Je pense que les conditions de l'industrie font que les travailleurs restent là où ils ont leur emploi et éventuellement aussi leur habitation, leur maison.
Le travail, ça ne court pas tellement les rues.
Ça ne les incite pas à sortir de la ville là où ils sont habituellement.
Ça incite vraiment à chercher du travail en dehors ou alors à être certain de trouver quelque chose.
Oui, celui qui est en loyer, en location, ben, il peut se permettre, s'il a une situation meilleure dans une autre ville. Il peut risquer à ce moment-là, si il va gagner 120 000 francs, il en gagne 80 ici, ça pourrait valoir la peine de dire je quitte ma ville pour gagner mieux ma vie. Quoi. Bon, par exemple, j'achète un appartement, je serais pour toujours ici.
Oui, là on est bloqué.
Quand on est...
Puis je pense aussi que l'Orléanais aime bien rester là où il est, il ne pense pas souvent à sortir du pays où il est né.
Est-ce que vous pouvez me parler des gens d'Orléans, justement?
Ils ont une très mauvaise renommée, en principe.
Oui, enfin, vous pouvez les décrire un peu.
Les chiens d'Orléans,
nous appellent. Les chiens d'Orléans.
Qu'est-ce que ça veut dire?
J'ai jamais su exactement, je crois que ça remonte...
Si, ça remonte assez loin, ça remonte à la période de la Pompadour, qui aurait passé sur le pont, sur un des ponts d'Orléans, et que les Orléanais se seraient refusés à payer un impôt, certainement. Et depuis... Nous sommes les chiens
d'Orléans. Les Orléanais sont assez difficiles pour les impôts.
Oui, mais non, si l'Orléanais est quand même assez froid.
Oui,
il n'est pas expansif. Il garde ses sentiments pour lui. Il n'est pas exubérant.
C'est renfermé, quoi.
C'est assez renfermé.
Qu'est-ce qu'il a comme défauts principaux?
C'est difficile à dire parce qu'il est... Il est méfiant, mais enfin, est-ce que c'est tellement un défaut Il est méfiant, si, c'est vrai, on est méfiant.
Oui, ça, on peut pas dire que c'est...
Mais enfin, est-ce que c'est un défaut?
pense pas, dans certaines villes, par exemple, on dit ben, y a le boisson qui est avare. Hein.
Méfiant aussi.
Méfiant, oui.
C'est peut-être parce qu'on est à côté de la Beauce, justement.
Oui.
C'est peut-être
oui,
ça aussi.
On dit qu'un des boisserons sont méfiants. Et...
Oui.
Alors, l'Orléanais, l'Orléans, c'est.
Par contre, si on prend le Sologno, il n'a pas du tout la même mentalité.
Ah non.
Pas du tout. Ils sont beaucoup plus accueillants. Vous allez chez eux, ils sont pas. Garder en dessous, ils sont plus ouverts comme gens.
Mais c'est aussi fonction de l'évolution de la vie, parce que du mode de vie. On ne peut pas dire que l'Orléanais a un tempérament plus ou moins que les habitants d'une autre ville. Je crois que c'est surtout fonction des conditions de vie et de travail. Par exemple, en campagne, les habitants sont quand même beaucoup plus ouverts. Ils ont davantage le temps d'ailleurs de fréquenter d'autres personnes. Tandis que maintenant en ville, c'est presque impossible, à part quelques exceptions, et puis chez les femmes qui ne travaillent pas. Mais une maman qui travaille, enfin même si elle n'est pas maman, bon bien, elle travaille, elle n'a pas le temps le soir en rentrant d'aller voir chez la voisine ce qui se passe. Ça c'est aussi fonction du. Le tempérament change, je pense, en fonction du mode de vie.
D'ailleurs, même en usine, on ne peut pas dire que les rapports, même entre ouvriers, sont pas courtois. On n'a pas la facilité de pouvoir engager le dialogue entre ouvriers ou quoi que ce soit. C'est assez froid. On vient là pour travailler, faire nos 8 heures et puis retourner chez soi.
Mmh. Et ça tient à quoi, ça?
Bah, avec les événements qu'il y a eu,
ça tient.
Les gens, ils se méfient un petit peu de tout le monde, il faut dire aussi ça.
Ah oui, pourquoi ça?
Oui, ben, il y a toujours ce problème du chômage qui se pose de plus en plus, et dans beaucoup de petites maisons, surtout dans les grandes usines, c'est pas pareil, il y a quand même une force qui est présente. Dans les petites entreprises, où les gens n'osent pas trop se confier à d'autres, ils ont peur à leur place. Moi, je suis dans le commerce, moi, c'est pourtant un magasin qui emploie 600 personnes. Bien, c'est pareil, beaucoup de rivalité pour avoir la petite place ici. Alors ça fait que les gens, ben, ils sont pas en confiance envers leurs voisins ou collègues de travail.
Et si on vous demandait quelles sont les qualités principales des Orléans, qu'est-ce que vous diriez?
Je crois qu'ils sont assez francs.
Oui, il existe quand même une certaine franchise. Ils sont quand même travailleurs, parce que...
Oui, ils sont assez besogneux, disons.
Oui.
Il y a un caractère bourgeois, c'est ce qu'on peut pas enlever à la ville. Hein. Ça, c'est.
Oui, c'est ça. Ancré, dépend, hein. Ça dépend d'ailleurs chez le travailleur, oui. Inévitablement.
Qu'est-ce que vous entendez par caractère bourgeois? Vous pouvez définir un peu.
C'est assez dur, mais.
On cherche la bonne place, quoi. Avoir un niveau de vie supérieur à son voisin. En plus, ce sera un peu ça le caractère bourgeois.
De par là, avoir un poste de télévision, le
ou alors une voiture.
Vice versa, quoi. C'est pas. Enfin, oui, bien sûr, ça arrive pour certains, mais enfin, c'est quand même pas la grosse majorité, non. Je ne pense pas.
Enfin, je crois que dans l'ensemble, les gens par ici, ils cherchent à avoir le plus de bien-être possible. Parce que le caractère d'amusement, tout ça, c'est pas une ville qui est joyeuse. Enfin, nos fêtes du 8 mai, la fête de Jeanne d'Arc, à part ça, c'est très calme.
Vous y allez à la fête de Jeanne d'Arc?
Quand on a des invités, oui. Enfin, ça, moi, ce jour-là, il y a plus d'étrangers dans la ville que ouais. D'Orléanais.
Moi, je n'y vais pas.
Les jours de la fête de Jeanne d'Arc, les Orléanais ont tendance à...
Ils partent à la campagne.
Partir à la campagne. Oui,
ou alors, il faut avoir de la visite, quoi.
Ou alors, avoir de la visite et puis emmener les... Vous invitez à la fête.
Oui.
Non, merci, je ne suis pas.
Merci.
Oui, parce que c'est vrai, tous les ans, c'est pareil. Quoi.
Oui.
Pas grand changement.
Ça attire énormément de monde, de toute façon.
L'embouteillage, oui.
Et ça permet de faire connaître la ville d'Orléans, quoi, oui. À travers de cette fête de Jeanne d'Arc. Enfin, il n'y règne pas une joie, ni un enthousiasme délirant. Pas comme dans les fêtes du midi. Vraiment, c'est formidable.
Ah non, c'est pas du tout la même ambiance.
Pas exubérant, comme c'est
même parmi les jeunes, C'est pas, on peut pas dire qu'il y a vraiment de l'ambiance auprès de Jeanne d'Arc, même parmi les jeunes. D'accord, il y a des balles, il y a des danses, ça fait l'occasion de se retrouver.
Je crois aussi qu'il y a.
Sortir un peu ensemble. Mais...
Je sais bien qu'il y a des jeunes qui font toujours un peu les farfelus, mais enfin, il y a un service d'ordre très répressif.
Un peu, oui. Plutôt strict.
Très.
Par exemple, vous pouvez donner des exemples.
Eh bien, les jeunes aiment beaucoup à faire le monôme comme les jeunes étudiants faisaient au lendemain des. Au soir des.
Du 8 mai ou 14 juillet.
Oui. Les monômes sont vraiment scindés, effrités par la police.
Mais bon, ça ne valent pas de ça. Ça m'arrivait personnellement quand j'étais un peu plus jeune, faire un monôme de la République. De toute façon, les voitures ne peuvent pas circuler. Tout le monde sort du feu d'artifice vers les 10h, 10h30. On formait un monôme. Bon. Moi, personnellement, je me suis retrouvé en peignée à salade pendant une heure. Non, ils sont assez sévères. Hein.
Alors que c'est une fête, si les jeunes ne s'y amusent pas, quand est-ce qu'ils s'y amuseront?
Est-ce que vous pouvez comparer les Orléanais, par exemple, avec les gens d'autres villes, par exemple Tours qui est tout près, ou bien Paris qui est pas très loin?
Non, on peut pas. Tours, on dit toujours que c'est un petit Paris, la ville de Tours.
Il n'y a pas tellement de différence.
On a toujours dit ça dans la région, et même dans d'autres villes. Moi, j'ai de la famille à Tours, justement. C'est beaucoup plus vivant. Vous passez le soir à 10h dans la ville de Tours, vous avez du monde, vraiment.
Oui.
C'est animé.
Jusqu'après minuit.
Ah oui.
Plus de minuit. Pourquoi c'est pas du tout la même animation?
Je ne sais pas.
Il y a beaucoup plus de distractions déjà.
Oui, d'une part, oui.
Et des petits cabarets, tout ça, qu'on n'a pas à Orléans. Oui. Si en cinéma c'est pareil, il y a beaucoup plus de cinéma.
Il y a au moins une trentaine de cinémas. Beaucoup de cinémas de quartier aussi.
Oui,
il y a au moins une dizaine de principaux et puis beaucoup de cinémas.
C'est-à-dire la ville est un petit peu plus grande quand même.
Il n'y a pas plus d'habitants?
130 000 je crois.
Oui.
Enfin,
c'est guère.
Oui, c'est à peu près
Non, mais... Les gens sont beaucoup plus vivants par
non,
là.
Non, c'est déjà pas la même ambiance, même mentalité, la Touraine, hein, c'est déjà plus chaud. Comme,
c'est plus accueillant.
Plus accueillant.
Peut-être.
Ouais.
Ah, c'est un pays de vin, c'est possible. Nous en avons un peu dans la région, mais enfin...
Oui.
Ça suffit peut-être pas, mettre le bon cœur.
Même les Javelois qui est à 50 km, c'est déjà pas la même chose qu'Orléans.
Oui, c'est pour ça, comme je disais tout à l'heure, pour s'amuser, les jeunes, pour s'amuser, il faut sortir. Il ne faut pas rester à Orléans, il n'y a aucune distraction.
Où est-ce que vous allez alors?
Même à Beaugency, il y a des dancing.
Beaugency, Neuville-aux-Bois.
Neuville-aux-Bois, il y a souvent dans les petits. Dans les alentours, je vis à une vingtaine de kilomètres, la Ferté-Saint-Aubin, il y a des balles assez souvent, des balles parquées.
Et par rapport aux gens de Paris, alors, vous voyez les différences de mentalité entre les Orléanais et les Parisiens?
Ah oui, quand même, il y a une mentalité.
Non, oui, c'est pas du tout pareil.
Vous pouvez être Parisien.
On a tendance à devenir un peu comme à Paris, on commence à courir pas mal ici. Celui qui travaille dans un ménage, quand on travaille à deux, c'est la course. Mais, point de vue mentalité avec Paris, on est quand même plus. Un noyau, puisqu'on est moins nombreux, on forme davantage un noyau qu'à Paris, où les gens, il y a un peu toutes
les
races.
Les gens ont davantage de divertissement à disposition, et puis ils sont plus expansifs quand même, les Parisiens, tandis qu'ici c'est assez fermé.
Est-ce qu'il y a des différences entre les Orléanais, enfin, les groupes qui sont différents des autres, enfin,
non.
Tout le monde se ressemble?
Oui.
Oh, oui.
Il n'y a pas de différence selon les quartiers, par exemple, comme mentalité?
Il y a, quartiers, il y a quand même une différence de mentalité avec le centre de la ville. Par exemple, les quartiers de l'Argonne, où se trouvent les nombre de familles ouvrières. Et puis, il y a quand même le quartier de la rue Croix-de-Bois, et puis le quartier de la rue Tudelle, qui diffère un peu.
Puis dans le centre, quand même aussi...
Il diffère justement avec le centre de la ville, où c'est vraiment les commerçants, c'est vraiment le quartier bourgeois, le centre de la ville.
Et vous pouvez décrire un peu les différences de mentalité?
C'est-à-dire que si on prend les Hirous, par exemple, c'est beaucoup de gens qui ont été relogés provisoirement dans des baraquements en bois. Et des gens qui ont vraiment un petit niveau de vie, vous voyez, c'est... y a beaucoup d'enfants et il y a des bêtises de faites par les jeunes. Il y a souvent la police qui sont dans ces quartiers-là, par exemple. On peut pas, chez nous, on a l'habitude de dire, ces gens-là, c'est de la crasse, par exemple, vous voyez, c'est des voyous. Par contre, il y a des gens très bien. Enfin, une personne qui ne meurt pas là, si, même si elle est à un très bon niveau et tout ça, elle pense comme les autres, quoi. Et le quartier de la rue Tudelle, c'est pareil, au bord de Loire. Mais ils n'étaient pas renommés non plus. Hein.
Mais ça se perd au fur et à mesure des années. Ça se perd.
D'abord, ce sont des quartiers qui commencent à être démolis.
Non,
oui,
je veux bien, parce que je suis sûr.
C'est des quartiers qui commencent à démolir parce que ils deviennent insalubles, forcément. Ces gens-là sont logés dans les HLM, alors eux, certains se retrouver dans des appartements quand même corrects et tout ça, remontent vraiment la surface, quoi, ils se laissent pas aller comme dans les baraques.
Est-ce que vous pourriez décrire maintenant chacun, enfin votre travail, ce qui vous plaît le plus et ce qui vous déplaît le plus dans votre travail?
On ne peut pas dire que le travail dans la région...
Vous pouvez rappeler ce que vous faites comme travail.
Enfin. Je suis taulier de métier, mais je suis employé comme ouvrier spécialisé numéro 1. Alors, ayant un CAP, deux CAP d'ailleurs, une préparation de brevet professionnel, on ne peut pas dire que je sois tellement enchanté de la situation qui m'est offerte dans l'usine où je suis. Quoi. Parce que, on sent qu'il n'y avait aucun effort pour favoriser les jeunes à avoir une situation plus élevée. Au contraire, on dirait que ce qui compte, c'est avoir du personnel qu'on ne puisse pas payer énormément, mais du personnel qualifié, il ne faudrait pas. Alors, on ne peut pas dire que dans mon métier, il y a vraiment de débouchés.
Est-ce qu'il y a des choses qui vous plaisent dans ce que vous faites? Vous pouvez décrire un peu une journée de travail, par exemple, et dire les choses qui vous plaisent et les choses qui vous déplaisent.
Ah ben pour décrire une journée de travail, c'est pas dur. Je me mets à mon poste de travail. Pour l'instant, je suis soudeur autogène. Je me mets à mon poste de travail, je prends des tubes et des embouts. Puis je soude toute la journée. Toujours les mêmes tubes, les mêmes embouts, toute la journée, toute la semaine, tout le mois. On peut pas dire que ce soit vraiment un travail qui me permette de me perfectionner dans mon métier. Au contraire, si je me maintenais pas au niveau par des cours le soir ou que ce soit, je me retrouverais à descendre de niveau intellectuel, il faut dire ce qui est. Parce qu'on arrive quand même à oublier ce qu'on apprend à l'école. Ça me permettrait pas de... Si un jour je veux partir, de dire bon ben voilà, je sais faire ça aussi, je suis capable de faire ça. Voilà, ça permet.
Est-ce que vous auriez aimé faire un autre métier ou...
J'aurais aimé exercer mon métier. C'est-à-dire exercer mon métier, faire un métier qui rentre ce que j'ai appris. C'est-à-dire un traçage, former les pièces, les ajuster, qui permet de à la fois et être manuel et un travail de réflexion. Mais alors, le corps ne se pose pas. Je crois bien que même le lundi quand j'arrive que je suis un peu endormi, c'est automatique. Je tourne les tubes.
Moi, dans ma profession, je suis vendeur. Mon premier métier, c'était ajustable. J'avais un CAP d'ajustable. Puis, de toute façon, je gagnais pas tellement bien ma vie d'être ajusteur. J'ai changé de profession. J'aime la compagnie des gens. C'est assez plaisant. Je vends des vêtements. Je suis preneur de mesure puisqu'on fait de la confection industrielle. C'est pareil, les gens, on en rencontre de toutes les catégories. On habille aussi bien des médecins que des ouvriers ou un peu n'importe qui. Il y a des gens qui sont assez plaisants à servir, puis d'autres par contre ils vont vous faire déballer 10 costumes par exemple pour rien vous prendre, alors selon les maudits.
Est-ce que vous pouvez décrire, est-ce que ça dépend de c'est certaines catégories de gens qui sont...
C'est souvent les gens les plus aisés qui sont les plus difficiles. Un ouvrier en ce moment, c'est la rentrée des classes, donc les ouvriers viennent habiller leurs enfants. Il faut habiller les enfants en pantalon, veste, en aura toutes les choses qu'il leur faut pour l'hiver. C'est des gens, suivant leurs moyens, ils savent ce qu'ils veulent, que dans les catégories plus élevées, on pose un petit peu, vous voyez, on prend un peu le vendeur pour prendre leur vin d'une part, et alors on fait essayer, ah oui, mais celui-ci, là, ça, et vous voyez, ça. Des fois on va passer une heure avec un client pour lui vendre un pantalon. Il faut en essayer. Ah ouais. Hein. Et c'est souvent les gens qui sont assez élevés au projet social et qui sont.
Alors que l'ouvrier, lui, il va faire un tour en ville, il va aller se promener, et puis s'il voit quelque chose qui lui plaît, qui peut se permettre de l'acheter, ben, il ira pour voir ailleurs. Non, du moment qu'il a vu ça,
il rentre, il demande.
Il rentre, il demande, il s'en va avec, on peut dire.
Ça, c'est pas déplaisant, quoi.
Il y a des choses qui vous déplaisent dans ce que vous faites?
Non, franchement. Il ne faut pas dire que je sois emballé par cette profession, mais c'est pas du tout déplaisant. Je fais un travail, bon, je m'occupe des réserves également, ce serait peut-être la partie la moins plaisante, puisque la marchandise que l'on reçoit, il faut la reconnaître, il faut la relever sur les papiers pour faire des factures. Bon, ça, c'est un peu un travail de manutention qui est peut-être moins plaisant. Quoi. Enfin, sans ça, dans l'ensemble, c'est bien le magasin assez agréable pour être plus moderne. Enfin. Vu notre région, les patrons nous opposent la ventilation ou choses comme ça. Je fais pas ses sous ici pour. Quand on est en cravate et en costume toute la journée qui fait 32 dans le magasin, là on est moins heureux. Quoi.
Comme ça, regardez les petits bas.
Et pourquoi vous portez le costume et la cravate?
Parce que c'est obligatoire. Je vends des costumes, il serait mal placé que je me présente en polo devant un client. Et puis lui faire l'article pour lui vendre un costume. Ça, c'est un peu normal. Hein. Les vendeurs sans ça sont en blouse. Même les vendeurs, par exemple, celui qui est vendeur à la quincaillerie, il n'est pas en costume. C'est normal. Enfin, moi, je vends un costume, il faut au moins que je sois présentable au client. C'est logique.
Moi, je suis secrétaire. Ce que je fais est un peu particulier puisque je travaille au syndicat, au siège des syndicats. Ça me plaît énormément, bien sûr. Mais enfin, au départ, j'aurais voulu continuer des études et être au moins dans l'enseignement. Mais je n'ai pas pu. Mais ce que je fais actuellement me plaît beaucoup. Ça me plaît.
Qu'est-ce qui vous plaît?
Ce qui me plaît précisément, c'est le contact avec les travailleurs, savoir quels sont leurs désirs, leurs revendications, comment ils peuvent, eux, les faire, les obtenir auprès de leurs employeurs. Et puis, nous voyons beaucoup de monde, nous avons beaucoup de contacts humains. C'est surtout ça qui me plaît, quoi. C'est les contacts avec les travailleurs.
Bien, moi je suis chauffeur dans une usine, là, je ravitaille, c'est-à-dire c'est sur une chaîne de cuisinières. Alors je suis avec un engin élévateur, que j'amène les charges au poste de travail. Je ravitaille tous les postes. Alors, il y a des moments où c'est agréable, d'autres jours c'est pas très agréable, quoi. Ça dépend du travail aussi.
La production.
La production, oui. Parce qu'il n'y a pas à s'amuser. Parce que plus ça va, plus on demande de travail, de rendement aux travailleurs. Alors, moi, avec mon engin, il faut que je suive pour ravitailler. Quoi. Plus ça va, plus il faut faire vite. Quoi.
Vous auriez aimé faire autre chose
ou... Ah oui, j'aurais bien aimé faire autre chose.
Quoi?
Quoi apprendre un métier, quoi. Parce que je suis OS, je suis ouvrier spécialisé. Sans métier, ça, c'est pas professionnel, quoi. J'aurais bien voulu prendre un métier.
Enfin, de toute manière, mais
c'est-à-dire avec l'électricien, quelque chose comme ça qui m'aille toujours plus.
Enfin, faut bien dire, dans la région, c'est des grandes usines. Vous avez Renault, Intervet, toutes ces maisons-là, bien. avoir un métier, ça ne sert pas. Vous avez un CAP, vous travaillez sur la chaîne comme les autres.
Oui, c'est ça, la majorité des gars qui ont des CAP se retrouvent sur la chaîne, quoi.
C'est vraiment des débouchés. Beaucoup de jeunes qui comprennent pas, qui s'opposent, justement, ils ont appris un métier, ils ont été 3 ans en école pour apprendre un métier, puis arriver là, ils se retrouvent comme des... Ils n'auraient pas appris leur métier, ils auraient été tout de suite à l'usine, ils auraient gagné de l'argent, à vrai dire, parce que ça leur aurait évité de perdre 3 ans pour apprendre un métier qui ne leur servira pas. Ou alors, leur servira une fois qu'ils seront plus...
Non, mais c'est-à-dire, si on ne l'exerce pas pendant plusieurs années, après, c'est plus la peine, c'est terminé.
Bien sûr, oui.
Si vous présentez devant un patron en disant, j'ai un CAP, il dira, mais il faut la pratique aussi, il faut...
Est-ce que vous pouvez parler un peu des rapports que vous avez avec vos patrons, en donnant des exemples, en fait des anecdotes pour mieux faire comprendre les types des rapports que vous pouvez avoir avec eux?
En usine, ça doit pas être commun. Moi, j'ai travaillé en usine, les rapports avec le patron, c'est...
Ouais, les rapports avec le patron sont pas difficiles, soit vous travaillez, soit vous allez à la porte.
Oui, ça, il y a garde de contact en usine. Moi, j'ai travaillé 6 ans en usine, et par contre, là, je suis dans un grand magasin maintenant. Remarquez que je suis délégué syndical, j'ai donc pas mal de contact avec le patron. Mais en dehors de ça, on a notre directeur qui est assez âgé. Et souvent, il m'amène un client, puisque il dit, voyez, ce monsieur-là est ajusteur, il leur fait voir mes mains. Je crois que ça a dû te surprendre que je m'adapte aussi bien, par exemple, à ce métier, puisque je sortais de l'usine. Et souvent, il m'amène des gens. Je voulais servir ces messieurs dames, il leur explique. Je sais pas pourquoi ça l'a frappé. Enfin, il y a quand même davantage de contacts parce que les patrons se promènent dans le magasin. Donc, soit qu'ils font une réflexion à un vendeur qui est pas en train de travailler ou qui est en train de discuter, ou en passant, demander si ça va, s'il y a du monde. Il y a quand même. C'est plus humain qu'en usine.
Vous voyez
Oh oui, tous les jours, de toute façon, les patrons passent dans le magasin. S'ils ne s'arrêtent pas ce jour-là, ils ne s'arrêtent pas le lendemain. Hein, il y a quand même pas mal de rayons. Et un jour, ils veulent avoir acheté belle aux chaussures, par exemple. Ils discutent avec les employés, leur demander si ça marche, par exemple. Le lendemain, ce sera moi, mais on rien. Il y a eu le costume où ils se renseignent un peu de la clientèle. Et en même temps, ils ont quand même des contacts humains que. On ne peut pas avoir en usine.
Et quand ils vous parlent, ils disent vous par exemple ou tu?
Ah, ils vous voient.
Ils vous voient.
Ils vous voient, oui.
Et vous, entre vendeurs, vous voyez ou tutoyez?
Moi, je tutoie. Enfin, beaucoup. Mais c'est pas le principe. Hein. Un magasin, ils ont tendance à se vous voyez. Moi, j'ai travaillé en usine, par exemple, j'étais régleur. Ouais. Dans la dernière usine où j'étais, j'avais sous mes ordres des compagnons qui avaient 40 ou 50 ans. Bon, j'étais pour chef, mais enfin j'étais responsable de leur travail. Bien, on se tutoyait tous en usine, que ce soit un vieux ou un jeune.
Oui, c'est ça.
Hein, moi, les gars qui rentraient, bon, ils vous voyaient parce que j'étais régleur. J'étais un ouvrier comme eux pourtant. Bon, on se tutoyait que dans le magasin, je vous vois mon chef de rayon. Mon chef de rayon, je lui dis où?
Et lui?
Il me voit également. Ça, c'est ancré dans les habitudes. Du commerce, certainement.
Et par entre contre,
entre employés, entre vendeurs, on se tutoie.
Ah oui.
Homme ou femme, on se tutoie.
Ou alors, si c'est une femme âgée. Une femme aussi.
Si c'est une femme âgée, non, on évite quand même de dire tu à une personne qui a 45 ou 50 ans. Une sorte de respect, quoique. Moi, j'estime que tutoyer n'est pas un manque de respect. Ça dépend sous quelle forme c'est employé. Enfin, la majorité se vous voit.
Entre vendeurs.
Entre vendeurs.
Ils se vous voient.
Oui.
Il y a des gens que vous tutoyez qui vous voient, par exemple, ou l'inverse?
Oui.
Par exemple?
Je ne sais pas, il y a un côté, il y a des petites jeunes qui me tutoient. Moi, je n'en suis pas offusqué du tout. Moi, quand ils viennent, on a souvent des étudiants qui viennent au rayon pendant les vacances, ils viennent travailler un mois. Alors, ces jeunes-là, on les vous voit automatiquement. Je ne sais pas, on se sent peut-être supérieur à elles, je ne sais pas si c'est ce point de vue-là qui... Enfin, je les vous vois, puis ça se trouve, Quand il reste les 3 mois de vacances, on finit, on se tutoie. On devient des copains, en somme.
Mais au départ, vous vous sentez supérieur à elle.
C'est peut-être ça, oui. On a une responsabilité. D'abord, on leur montre d'abord la marchandise. On leur apprend un petit peu à faire ce métier-là. Alors, eux, ils viennent pour gagner un petit peu d'argent. Enfin, souvent, à la fin, il faudrait vraiment qu'il y ait une antipathie. Bon, si c'est une personne antipathique, il n'y a pas de problème. Ça reste.
Et vous vous tutoyez entre...
Entre compagnons d'usine, oui. Oui, pas vraiment au niveau de...
Personne âgée, quand même.
Oui, ou alors vraiment une personne âgée. Mais sans ça, sans quoi que les compagnons travaillent, même âgés, on peut dire qu'on se tutoie.
Et ceux qui sont supérieurs?
Supérieurs, ça arrive à chef d'équipe. Chef d'équipe, on commence à se vouvoyer, mais enfin, ça dépend de l'ambiance de l'atelier. Si vraiment le chef d'équipe travaillait depuis un an dans un atelier avec le même chef d'équipe, à la fin, vous arrivez à vous vouvoyer, à vous tutoyer, ça dépend comment.
Et vous pouvez parler un peu de vos rapports avec les... avec vos compagnons et avec le patron?
Oui, pour moi c'est pareil, on se tutoie, en majorité on se tutoie, oui. Sauf avec les chefs quand même, je sais pas si c'est un respect ou un renvoi, quoi.
Vous avez des rapports avec votre patron ou...
Oui, un petit peu, oui. Enfin des rapports, faut pas dire que c'est formidable les rapports avec le patron.
Non, c'est plutôt maigre.
Vous serrez la main ou...
Oh là, jamais.
Ah, les patrons, ils ne serrent pas la main aux ouvriers. Ils passent dans l'atelier, puis ça, en regardant, c'est tout, si on travaille, sans plus.
Vous non plus, ils ne serrent pas la main?
Ah non.
Est-ce qu'il y a des... À votre avis, est-ce qu'il y a des classes sociales à Orléans? Est-ce qu'il y a des classes sociales différentes?
Je crois.
Ah oui, ouais.
Est-ce que vous pourriez décrire les rapports entre les classes, enfin?
Il y a la classe bourgeoise qui n'a aucun contact avec la classe ouvrière.
Vous voyez combien de classes, à peu près?
Ou bien, il y a 3 classes.
Je crois
il y a
3,
vraiment
oui.
La classe bourgeoise, il y a les classes moyennes, ce qu'on appelle la classe moyenne, et puis la classe ouvrière.
Vous êtes d'accord ou...
Oui.
Et qu'est-ce que vous pensez des bourgeois d'Orléans?
C'est difficile d'en penser quelque chose. Je crois que c'est un peu comme toute la bourgeoisie dans toutes les autres villes. Ils ont leur classe et elle est bien fermée. N'est-ce pas exceptionnellement pénétrer quelqu'un dans leur classe? Ils ont des contacts aussi avec les classes moyennes, par exemple.
Mais...
Pas avec la classe ouvrière, absolument.
Oui, ça c'est les... ceux qui sont dans les banques, des choses comme ça, voilà. C'est déjà un petit peu au-dessus.
Oui, mais même enfin, la classe bourgeoise en tant que telle, elle n'a pas de contact, même avec des employés de banque. Elle est vraiment très fermée.
À partir de quand vous dites que quelqu'un est bourgeois, par exemple?
Eh bien, quand il a un certain revenu, qu'il est... propriétaire d'usine ou de magasin, grand magasin, disons.
Un professeur, par exemple.
Ah non, c'est pas partie d'une classe bourgeoise.
Ça fait classe moyenne.
Classe moyenne.
Ça, c'est la classe moyenne.
Professeur d'université aussi.
Classe moyenne.
Classe moyenne.
Qui ont quand même des contacts avec les classes bourgeoises.
Ouais. Un médecin, par exemple.
Classe moyenne.
Classe moyenne.
Ah oui, classe moyenne.
Avocat.
Classe moyenne.
Alors dans la bourgeoisie, vous mettez simplement les industriels.
Les industriels, oui.
Et les commerçants, vous les classez dans la classe moyenne?
Classe moyenne, oui.
Et est-ce que c'est plus facile pour la classe moyenne d'avoir des rapports avec la bourgeoisie que pour la classe ouvrière d'avoir des rapports avec la classe moyenne?
La classe moyenne, elle a des rapports dans les deux sens. Elle en a avec la bourgeoisie, mais elle est obligée d'en avoir aussi avec la classe ouvrière. Les médecins, par exemple, ils sont bien obligés d'avoir des rapports avec la classe ouvrière, les avocats aussi, les professeurs. surtout à Orient, il existe une université nouvelle dont les professeurs s'orientent surtout sur l'éducation de la classe ouvrière. Alors, de par ses contacts, il y a, enfin, de par ses, il y a quand même des contacts entre les classes.
Quand on dit petit bourgeois, par exemple, pour vous, qu'est-ce que ça veut dire?
Petit bourgeois, ça, c'est l'esprit, en définitive, qui compte plus que le fait d'être petit bourgeois. Un médecin peut être petit bourgeois.
L'esprit, c'est quoi? Vous pouvez décrire un peu?
Et d'être bourgeois, c'est d'être surtout, de tout faire pour avoir son confort personnel, enfin, et puis le sien, et espérer se faire une place pas trop mauvaise au soleil.
Pour aller à la chasse, admettons.
Voilà, acquérir une chasse, acquérir une petite maison, ça, c'est l'esprit petit bourgeois, enfin, à notre avis, à nous, quoi.
Est-ce que dans la rue, on peut reconnaître la classe d'une personne, à votre avis?
La vie fait pas le moine, hein, mais enfin...
Ça disparaît de plus en plus. Ouais. Par exemple, on ne voit plus les ouvriers sortir en bleu. Ça, c'est... Dans une ville comme Orient, ça a quasiment disparu. Il n'en reste encore, mais ce sont des personnes âgées, bien souvent. Des vieux travailleurs, des vieux charpentiers. Alors, on voit vraiment qu'il est charpentier. Mais chez les jeunes, ça ne se voit absolument pas.
Non, ici. Dans le Nord, oui, les mineurs, le dimanche, ils mettent un bleu propre. Ici, ça ne se verra pas.
Ici, ça ne se voit pas du tout.
Et dans un café, par exemple, vous savez reconnaître...
Ah non.
Vous ne pouvez pas reconnaître.
Non, voilà, après...
C'est-à-dire, il y a différents cafés aussi.
Oui, il y a différents. Enfin,
à ces cafés bien attitrés.
Oui, mais un café et comme le Kédivre, les ouvriers y vont, on ne peut pas reconnaître...
Oui, aussi bien les hommes d'affaires.
Ah oui, dans les cafés du centre, oui, d'accord.
Dans les cafés du centre.
Oui, les cafés d'ouvriers, les cafés d'étudiants aussi. Il y a des cafés, surtout vers les collèges, où vraiment, c'est des rendez-vous d'étudiants.
À la source, là.
À la source,
oui, et
à
la place de la gare.
Aux alentours de la gare.
La Grande Taverne.
La Grande Taverne.
Bon, moi je m'excuse, hein, mais je vais vous quitter parce que le magasin va fermer.
Est-ce que vous avez un peu de temps encore?
Oui, j'en ai encore.
Au revoir, merci beaucoup. Bonsoir, monsieur.
Bonsoir, vous vous éclairez?
Oui, d'accord.
Bonsoir.
Bonsoir.
Oui, alors il est dans un café. Alors les cafés ouvriers, c'est quoi par exemple?
Mais c'est ceux qui situent en face des usines, par exemple.
Dans les faubourgs.
Oui.
L'extrémité de la ville.
Et des cafés bourgeois, par exemple.
Café bourgeois.
Je ne sais pas s'il y en a vraiment.
Il y en a. Enfin, je pense pas qu'il y en ait vraiment.
Café, non, c'est en bordure de Loire.
Des cafés.
On ne va pas dans les cafés?
Dans les hôtels, les restaurants, oui, mais les cafés.
Ils ne vont pas dans les cafés?
Ah, si.
Ça se voit pas.
Orient sur la place du Loiret.
C'est-à-dire, c'est les restaurants à ce moment-là qui font la différence.
Les restaurants.
Par exemple, la place du 3, où. Là, vraiment, c'est une classe supérieure qui va dans ces restaurants.
Est-ce que vous voyez une différence entre. Oui, une différence entre un commerçant, par exemple, comme mentalité, et un employé de bureau. Est-ce que vous trouvez qu'ils ont des mentalités différentes ou...
Je ne vais pas toujours répondre, je crois qu'ils donnent un peu leur avis.
Pas d'employé de bureau, mais commerçant.
Un commerçant, oui. Une différence de comportement, de façon de vivre.
Tout dépend où se trouve, professe le commerçant. Si c'est à l'intérieur de la ville, au centre de la ville, disons que sa mentalité diffère peu d'une employée de bureau, par exemple. Si c'est un commerçant qui est à l'extérieur de la ville, qui se trouve dans les quartiers ouvriers, alors là, sa mentalité diffère. Et même chez les employés de bureau, ça c'est tout à fait relatif.
Donc vous pourriez dire qu'il y a vraiment une différence entre les employés de bureau et les commerçants. Ou alors vraiment dans les grands commerces. Il faut vraiment aller dans les grands commerces.
Quand en politique on dit la droite et la gauche, qu'est-ce que vous mettez sous chaque terme? La droite, c'est quoi? La gauche, c'est quoi?
Je vous laisse répondre un peu.
La droite, je pense, c'est... ce sera le niveau aisé. C'est-à-dire bourgeois, docteur, en largeur, avocat, jusqu'à la classe moyenne. Et après, la gauche, l'ouvrier dans l'ensemble, il me semble. Il me semble que ce serait... enfin, à mon avis, je vois ça dans ce sens.
Oui, encore qu'il y a des exceptions tout de même.
Ou alors même, il y a, naturellement, il y a les vieux aussi, qui sont peut-être un peu tendance à la droite. Étant les événements, le général de Gaulle, les vivres à la France, ces souvenirs. Mais enfin, quand même, on sent que... Et alors là, parmi les jeunes, il me semble qu'il y a vraiment une tendance à la... vers la gauche. Même d'ailleurs, entre le rapport entre enseignants et jeunes, je vois au collège, on sent même que du côté enseignant, on peut prédire que ce soit vraiment de la droite. Moi, j'ai vu des enseignants dire quand il y a une grève, il faut la faire. Alors que c'était vraiment... Une grève, ça se respecte. C'est vos droits que vous défendez. C'est votre avenir. J'ai pas mal de... D'ailleurs, c'est... depuis un certain moment, il y a une facilité de rapport entre enseignants et étudiants sur ce sujet. Et un peu sur le plan politique, quoi. Et on s'en est aperçu au mois de mai, il en manquait encore.
Qu'est-ce que vous pensez des étudiants?
Des étudiants, personnellement, je ne peux pas dire que je suis étudiant, mais les étudiants, on considérait à un moment les étudiants parmi les gens, les personnes, les fils de riches, si vous préférez. On considérait un peu les étudiants comme ça. Mais depuis peu, enfin pour depuis peu, depuis un certain temps, on sent que. Il y a vraiment l'ouvrier qui s'incorpore à ce niveau. C'est d'ailleurs pourquoi la bourgeoisie perd de plus en plus de terrain, parce que l'étudiant, un copain, une copine, que ce soit un bourgeois ou un ouvrier, ça se retrouve sur le plan rapport une fois chez les parents, admettons. Et si vous allez voir... un bourgeois laissera pour sortir sa fille avec un étudiant, ou très difficilement, avec un ouvrier, tout au moins, aussi difficilement. Alors que ça paraît normal, même un ouvrier, soit au bal, que ce soit... On s'inquiète peu des rapports entre jeunes de classe, on s'inquiète peu des classes. Ce qui est surtout de la fille.
Oui, j'ai changé la bande. Qu'est-ce que vous pensez des événements de mai?
Les événements de mai, on peut dire que... Il me semble que ce qui s'est produit, c'est qu'on avait un peu trop mêlé le mouvement étudiant au mouvement ouvrier. Il me semble que si le mouvement étudiant s'était produit avant ou après un mouvement ouvrier, à quelques mois d'intervalle même, on aurait obtenu... beaucoup plus, peut-être.
Pourquoi ça?
Parce que pour vous expliquer. Moi. Ça a fait un peu la cohue. On a vu les étudiants, les ouvriers groupés pour la première fois à Roilly, c'est ce qu'on peut dire. Puis on a tout mis dans le même sac. On a tout réglé dans le même sac aussi. On a tapé un coup à droite, un coup à gauche, une fois sur l'étudiant, une fois sur l'ouvrier. Puis, il faut dire qu'on a perdu autant l'un que l'autre, aussi bien l'étudiant que l'ouvrier, dans la partie, il a perdu un.
Qu'est-ce que vous pensez des étudiants qui ont été discutés avec les ouvriers au port de l'usine?
Je pense que c'est bien, mais ça dépend des étudiants. Si vraiment c'était pour des discussions entre ouvriers et étudiants, sur le plan rapport, comment ça se passe, la différence qu'il y a dans les usines, dans les universités, comment ça se passe le travail dans l'université, puis la différence avec un ouvrier. Si c'était sur ce plan-là, il me semble que c'était bien. Mais alors, sitôt que l'étudiant engagé sur le plan politique, il me semble que pour l'ouvrier, ça ne devenait pas tellement intéressant.
Pourquoi? Vous pouvez préciser un peu?
Parce que dans le fond, ce qui intéresse l'ouvrier, c'est pas tellement un changement de politique, si on peut pas dire. Ce qui l'intéresse, que ce soit un tel ou un tel qui soit au gouvernement, ou que ce soit de droite, que ce soit de gauche, ça lui importe peu. Ce qu'il veut, ce qu'il voudrait, c'est vraiment avoir un niveau de vie convenable, une paye, un travail convenable. Alors que l'étudiant, on peut dire que naturellement il a eu l'enseignement, mais il n'a pas la pratique de la vie qu'un ouvrier peut avoir, il semble. On lui apporte des livres, des conversations. D'ailleurs, il me semble que c'est d'ailleurs ce qu'il faut développer, les conversations entre étudiants et ouvriers, et puis étudiants, et même étudiants ouvriers avec les professeurs. Mais il n'a pas le sens de la vie comme peut l'avoir un ouvrier. Il n'a pas une famille à nourrir, il n'a pas à se demander si demain il va avoir du travail, s'il va pouvoir vivre, avoir assez d'argent pour tirer la fin du mois. Il sait que derrière lui, il va y avoir les parents. Alors il s'importe un peu.
Oui, moi je suis d'accord sur ce point de vue. Pour moi, je vois les choses pareilles.
Et votre avis, qu'est-ce que...
Pour en revenir aux événements de mai, là, je pense que tout de même, ça nous a apporté quelque chose. Vous avez...
C'est certain, ça a apporté quelque chose, mais...
On a eu des résultats, quoi. Il fallait ça pour que le gouvernement, le patronat, lâche... Il était contraint de lâcher quelque chose.
Il fallait ces événements pour que, vraiment, le gouvernement voit que l'ouvrier, il a travaillé pendant 10 ans pour remonter un peu la France, si vous voulez, depuis la guerre. Mais alors, depuis 10 ans, les coffres, ils sont remplis, c'est certain. Alors, l'ouvrier voudrait bien un peu en toucher. Il ne faut pas trop tirer sur la corde. Il faut savoir s'arrêter, il me semble, et puis après, partager. Et voilà, on a travaillé, on est arrivé à avoir une France à peu près correcte. Maintenant, ce qu'on voudrait, c'est pouvoir vivre correctement.
Alors, vous trouvez que c'est un succès, enfin, que les événements ont abouti à une victoire?
Vous allez dire que je suis révolutionnaire, mais je pense que c'est un succès, mais je pense que c'est pas encore assez fort.
Qu'est-ce qu'il aurait fallu?
Il faudrait que ça se reproduise.
Pour obtenir quoi?
Pour obtenir un niveau de vie valable. Pour obtenir que ce ne soient pas tout le temps les mêmes qui profitent. Que, admettons, je prends l'exemple d'un cultivateur qui va vendre, je sais pas, son kilo de pommes 30 francs, puis que vous allez le retrouver sur le marché à 120 francs, ou 150 francs. Alors, entre-temps, c'est passé par où?
Et un niveau de vie valable, pour vous, ça se situe à quel...
Un niveau de vie valable, ça se situe après avoir se demandé comment on va faire pour finir la fin du mois. Est-ce qu'on va pouvoir prendre un petit crédit
Être sûr d'avoir du travail, quoi, aussi.
Oui.
C'est très important.
Est-ce qu'on va pouvoir être sûr de garder son emploi si, admettons, il arrive un ennui, que quelqu'un tombe malade, est-ce qu'on va pouvoir s'assurer de pouvoir tenir le coup, de pouvoir être envoyé à ce moment-là? Je sens que c'est ça, le niveau de vie, là.
Il faudrait un salaire de combien, par exemple, pour vivre
normalement? Minimum 100 000.
Oui. Oui, 100 000.
Tarif au prix actuel des marchandises, des niveaux de vie, quoi, on peut dire, il faudrait un salaire de 100 000 francs. Même pour un ouvrier, sans être qualifié, il faudrait un salaire de 100 000 francs.
200 000 francs.
D'au moins, au minimum 80 000 de, pour, moi je vois, même un manœuvre, dans le fond, c'est un ouvrier comme un autre, il n'y a pas de raison qu'il ait 60 000 francs. Surtout que c'est surtout ces gens-là qui plus souvent en ont besoin.
Oui, il y a trop de différences justement entre un meneur et puis un chef, quoi. Ouais. Chef d'atelier ou qui gagne 4-5 fois de plus. Ça, c'est pas permis. Moi, je trouve qu'il y a trop de différences.
Est-ce que c'est indiscret de vous demander combien vous gagnez à peu près?
70 000.
Oui, moi, je ne sais pas, 70-75.
Et vous avez dit 100 ou 200, je n'ai pas entendu.
70 000.
Non, oui, mais ce que vous voudriez.
100 000.
100 000.
Il me semble qu'avec, moi personnellement, au niveau que je suis, avec j'ai quand même deux CAP, je prépare, j'essaye de poursuivre mes études, j'essaye donc de progresser un peu, d'avoir un niveau de vie convenable, sans qu'un salaire de 100 000 francs soit honnête. C'est honnête, je ne demande pas la lune, au contraire, on pourra très bien réussir la lune comme des mondes d'ailleurs.
C'est-à-dire si tout le monde, si les plus bas salaires déjà étaient de 80 000 ou 800 nouveaux francs, quoi.
Ouais.
Ce serait déjà mieux. Parce que vous avez tout de même des salaires de 50.
Plus maintenant, depuis les événements de mai d'ailleurs. Oui, ça a quand même apporté des choses sur
le salaire, oui.
Ça. Ou alors il y a la vie qui a augmenté. Alors. Je peux pas dire que ça a vraiment apporté quelque chose d'exceptionnel.
Et alors vous dites d'un côté ça a été un succès parce que les salaires ont augmenté, mais d'un autre le coût de la vie a augmenté.
D'un autre côté on sent que le patronat il est mauvais d'avoir été obligé de lâcher un peu de ses coffres-forts, d'ouvrir un peu ses coffres-forts. On sent que il veut, par tous les moyens, essayer de le récupérer. Alors on sent que l'ouvrier, par tous les moyens, veut essayer de l'empêcher.
Et qu'est-ce que vous voyez comme solution?
Ben, comme solution, je vois que le gouvernement il prépare pas mal de forces, alors je vois que l'ouvrier se prépare aussi. Il y a une guerre civile en perspective.
C'est un peu dur.
Vous, qu'est-ce que vous en parlez?
Non, peut-être pas quand même.
Peut-être pas une guerre civile.
Je le souhaite pas. Là.
Vous, qu'est-ce que vous voyez comme solution?
Ben, un changement politique, quoi.
Oui, pour leur choix,
c'est ça.
De quel type?
Ben, un gouvernement de gauche.
Mais la gauche, ça commence où aussi?
Ça commence où? À l'extrême, comment? Extrême gauche ou...
Non, la gauche. Parce que, qu'est-ce que vous appelez un gouvernement de gauche? Qui vous commanderait, étant donné les partis politiques existants actuellement?
Ah oui.
Que l'ouvrier ait sa place dans l'industrie, dans les rapports, dans les comptes, quoi. Qu'il puisse participer à son travail. Qu'il puisse participer à la marche de son entreprise. Mais alors, pas essayer par la participation comme on dit en ce moment. Si la participation, c'est pour en mettre un peu plus dans les coffres forts en ce moment, quoi.
Alors, vous, la participation, comment vous la verriez?
La participation, moi, je la verrais... l'ouvrier qui soit capable de discuter avec le patron, d'organiser, de dire voyez, il me semble que si on faisait ça comme ça, on tirerait peut-être un peu plus de profit. Et non, le patron qui dise non, je veux pas ça, ce sera comme ça et comme ça.
C'est-à-dire, si on regarde le même patron, ça ne marchera pas. Oui. Parce qu'il a eu l'habitude de nous voler, quand il dira moi, je pense qu'il faut le changer.
Et sur le plan politique, à ce moment-là, moi, comme gouvernement, je ne vois pas un gouvernement de gauche, je ne vois pas le communisme, en tout cas. j'estime que le communisme, c'est l'aboutissement du gouvernement. C'est-à-dire qu'une fois que le communisme est instauré dans un pays, on ne peut pas aller trouver un gouvernement qui puisse faire mieux, qui puisse s'opposer au communisme. C'est un peu bridé, si vous voulez, le communisme. Mais alors, je verrais bien, moi, un gouvernement qui ne soit pas dirigé par 4-5 hommes, mais par une assemblée, mais une assemblée à la fois d'ouvriers, d'étudiants et de toutes les classes. Il me semble que ce serait le meilleur moyen de résoudre les problèmes.
Et qu'est-ce que vous pensez, par exemple, quelle est votre position par rapport à ce qui s'est passé, par exemple, en Tchécoslovaquie?
Ma position, je vous dis, c'est comme je vous dis, l'aboutissement d'un pouvoir, c'est le communisme. Alors on a vu un gouvernement, si vous voulez, un peu s'opposer à un communisme trop fort. Et on voit en réalité le communisme reprendre le dessus. Alors, c'est-à-dire imposer le communisme. Je ne suis pas de cet avis. Il me semble qu'il faudrait laisser le communisme, c'est entendu, mais un communisme, pas communisme fixe comme il est dans un pays et comme il doit être partout. Tant qu'il y a communisme et communisme. Comme il y a gauche et gauche.
Et vous, qu'est-ce que vous pensez de tout ça?
Ah, moi, je ne partage pas du tout les mêmes opinions. Sur la Tchécoslovaquie.
Par exemple, en commençant par mai.
Par mai. Mai a quand même. Mai, les grèves de mai et juin ont quand même eu une grosse importance dans la France. Ces événements ont quand même amené aux travailleurs des. ont quand même amené des choses importantes aux travailleurs. Ne serait-ce que, non seulement les salaires, d'une part, surtout les bas salaires, ont été revalorisés d'une façon assez formidable, mais aussi, surtout, cette prise de conscience des travailleurs, de leur force vis-à-vis de leurs employeurs. Quand ils sont unis, ils peuvent acquérir des choses assez importantes qu'ils ont réclamées depuis des dizaines d'années. Au point de vue des liaisons avec les étudiants, il ne faut pas rejeter a priori les relations qu'on peut avoir avec le monde étudiant. Au contraire. Mais on ne peut pas non plus aller complètement sur leur position. Qui aurait pu nous entraîner dans là où vraiment il n'aurait pas fallu entraîner la classe ouvrière. Absolument pas. Par exemple, on nous a reproché, nous, je parle toujours en tant qu'organisation syndicale, de ne pas avoir été assez loin, de ne pas avoir fait davantage. Dans la conjoncture international, national d'abord et international par la suite, ça ne nous était pas possible d'aller tellement plus loin. C'était pas le but de l'action des travailleurs, c'était une action revendicative. Ça n'était pas une action politique. D'ailleurs, c'est le but des syndicats. La politique, on laisse aux partis politiques. On peut dire notre accord vis-à-vis d'un parti politique quand il prend une position en faveur des travailleurs. On peut dire que nous, on est d'accord avec sa position. Mais là, ça n'était pas un but politique, c'était surtout un but revendicatif. Et au point de vue revendication, il est certain que les travailleurs ont obtenu quand même pas mal de choses. Les salaires, la prise de conscience de leurs forces, et aussi les avantages qui ne sont pas négligeables, le droit syndical à l'entreprise. Ce qui permet aux travailleurs d'aller discuter, enfin par l'intermédiaire de délégués avec les employeurs. Et effectivement, actuellement, on assiste à une montée des prix, mais elle n'est pas forcément due aussi à l'augmentation des salaires, ni aux événements de mai. Il y a pour nous l'incorporation de la TVA depuis le 1er janvier dans le prix de vente des marchandises, qui qui augmente considérablement les marchandises. Notre vendeur est parti, mais il pourrait vous dire que le prix d'une marchandise qui est reçue à 5 francs dans un magasin est revendu à 1000 francs. Alors vous voyez cette culbute, d'où l'incorporation de la TVA, puis le bénéfice du patron, bien sûr. Alors cette augmentation des prix n'est pas due à l'augmentation des salaires en mai et juin. Ça ne suffit pas pour expliquer l'augmentation des prix.
Est-ce que vous croyez que l'augmentation des prix va supprimer les effets des hausses des salaires?
En partie, oui, ça supprimera l'effet de l'augmentation des salaires. C'est-à-dire que tout sera mis en cause d'ici peu de temps.
Et qu'est-ce qui va se passer?
Eh bien, il se repassera certainement comme il s'est passé en mai et juin. Je ne dis pas dans l'immédiat, mais il est certain qu'à brève échéance, il y aura une manifestation de mécontentement des travailleurs, ça c'est certain.
Et d'après vous, ça va prendre quelle forme ça?
Oh, ça prendra la forme que ça a pris au mois de mai ou au mois de juin. Grève, occupation d'usine.
Ça sera pire. Si.
Je ne sais pas si ça sera pire, mais enfin.
Et à votre avis, qu'est-ce qui a déclenché les qu'est-ce qui a déclenché les grandes grèves de mi-juin?
Eh bien, c'est le mécontentement des travailleurs.
Oui, mais enfin,
À l'origine, il y avait déjà les mouvements estudiantins qui avaient occupé les étudiants avaient occupé les universités, les grandes écoles. Il est certain que ça a contribué à l'explosion du mécontentement. On ne peut pas le nier. Et puis, il y a toute cette rancœur accumulée dans le cœur des travailleurs. Ça, il est certain que. Dire que, il est certain que ça a fait faire un grand pas à l'explosion de ce mécontentement, par exemple. Ça, c'est certain. Mais il est vrai que le mécontentement existait, profondément.
Je suppose que vous êtes à la CGT, tous les trois. Oui. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi vous êtes à la CGT, par exemple, plutôt que dans un autre syndicat? Est-ce que vous pouvez comparer la mentalité des différents syndicats et donner les raisons pour lesquelles vous êtes à la CGT plutôt que dans un autre?
Moi, je suis venu à la CGT parce qu'il me semble que c'est l'organisation la plus capable de défendre l'ouvrier. C'est-à-dire la plus capable de s'opposer au patron, la plus capable de s'opposer... abus du patron. Alors, par contre, il me semble que j'aime bien la CGT parce que on sent vraiment que ça s'oppose au patron. D'ailleurs, on n'est pas aimé dans les usines, on le sent vraiment. On se sent...
Oui.
C'est pas qu'on aime la bagarre, mais on sent que vraiment... c'est une organisation puissante, c'est reconnu par la direction, par les patrons, on le sent, même dans les relations, même dans le travail, ils font tout pour essayer de supprimer la CGT, au moins les délégués, les adhérents, on leur donne le mauvais travail, on les brime. D'ailleurs, j'ai eu 5 ans.
Si on est prêt à discuter quelque chose, allez, on retourne à ta place et tandis qu'on voit d'autres délégués, justement, d'autres syndicats dans l'usine, qui eux se promènent comme ils veulent et tout, on ferme les yeux sur leur cas.
Oui. Mais ils ont des bonnes places.
Ils ont des bonnes places, oui.
Même s'ils sont incapables.
Et puis beaucoup d'autres usines que c'est pareil.
La CFDT, par exemple.
Oui.
Oui, la CFDT, par exemple. Justement, on a quelques petits ennuis en ce moment.
De quel genre?
Ah ben, on avait déclenché une action pour obtenir une prime, parce qu'on est une société. Alors, c'est-à-dire qu'il y a une usine à Paris, une usine dans le Bas-Rhin. Alors, la direction avait donné une prime de fin d'année à Paris et dans le Bas-Rhin. Et Orléans avait refusé catégoriquement de donner une prime. sous prétexte que la société est en déficit, que l'usine d'Orléans ne produit pas assez, pourtant c'est la plus importante usine, et nous produisons pour les autres usines, nous fabriquons pour que les autres usines puissent fabriquer, c'est-à-dire il manque de pièces, c'est nous qui les faisons à Orléans et qui les envoyons dans les autres usines pour qu'ils puissent monter leur usine. Naturellement, on a déclenché une action tout à fait normale, sensée. C'était absolument incompréhensible que les deux autres usines, alors que c'est nous qui faisions le travail pour qu'ils puissent travailler, aient une prime et que nous, à Orléans, nous n'en ayons pas. Alors là-dessus, la CFDT a trouvé comme prétexte que la proximité des vacances n'était pas favorable à l'action. Alors on leur a simplement dit que si on leur coupait la tête, ils diraient d'accord.
Et à votre avis, quels sont les objectifs de la CGT et quels sont les objectifs de la CFDT?
Les objectifs de la CGT, il me semble que c'est défendre un niveau de vie, défendre le travailleur dans l'ensemble, quel qu'il soit. Les objectifs de la CFDT, il me semble que ce serait plutôt obtenir une politique pour avoir... pour obtenir une force, si vous préférez, pour avoir le monopole des syndicats, pour écraser les autres syndicats, il me semble.
D'ailleurs,
ça se comprend, vous avez la CFDT qui reçoit du gouvernement je ne sais combien de millions, 250 il me semble, 250 millions, et qui est pourtant une unité, un syndicat moins puissant que la CGT, même que la FO.
Non,
moins puissant que la CGT. Et vous avez la CGT qui reçoit 50 millions. Là, on voit vraiment que la différence. Alors, on sent que c'est, faut le dire franchement, que c'est un syndicat créé par le patron.
Il y en a qui ont dit que lors des événements de mai-juin, la CFDT voulait aller plus loin que la CGT.
Qu'est-ce
que
vous en pensez ? Ça se comprend. Je vous ai dit tout à l'heure qu'ils voulaient. Surtout, c'était un changement politique, ils veulent un changement politique. Mais il me semble que, personnellement, l'avenir des travailleurs, le niveau de vie des travailleurs, ils s'en soucient. Ils s'en soucient quand même. On dirait que c'est eux qui veulent gouverner la France. Ça ne doit pas être une organisation syndicale, ça doit être une organisation politique.
Ou est-ce que vous attachez davantage d'importance, par exemple, à des questions de salaire ou à des questions de nombre d'heures de travail?
J'attache autant d'importance. J'attache d'importance à la fois et au nombre d'heures et au salaire.
Oui.
Parce que je considère qu'il serait normal qu'on fasse moins d'heures pour permettre justement qu'il y ait beaucoup moins de chômage, alors qu'en ce moment il s'accrue. Je trouve que ce serait normal que... Arrivé à 60 ans, c'est déjà beau. Moi, je suis pour 55. Je suis déjà jeune, remarqué.
Et vous? Oui, moi aussi. Enfin, déjà 60 ans, première
55 étape. Ans, j'estime normal que quelqu'un qui a travaillé, il a eu de quoi se faire son petit pas tranquille, son petit niveau de vie, il puisse un peu profiter de la vie. Et puis, ça permettra aux jeunes d'avoir des places, de progresser un peu.
Et vous préférez faire moins d'heures de travail et gagner moins, ou faire davantage de travail et gagner plus?
Je préférerais faire moins d'heures de travail et gagner plus.
Et vous?
D'ailleurs, ça se comprend.
Est-ce que vous avez déjà été est-ce que vous avez déjà été à la Maison de la Culture? À Orléans. Qu'est-ce que vous en pensez? Enfin, qu'est-ce qu'on en raconte à Orléans?
Il me semble que c'est pas assez connu parmi les milieux ouvriers.
Et quelle image on en a enfin chez les ouvriers?
C'est réservé aux étudiants.
C'est réservé aux étudiants. Vous y avez jamais été?
Non,
vous êtes jamais rentré? Vous non plus?
Si, je suis rentré une fois.
Mais qu'est-ce que vous en pensez?
Bah, je trouve que c'est une bonne chose, ce serait bien, mais voilà. Les ouvriers s'y intéressent pas assez ou ils n'ont pas le temps. Quoi, c'est ça.
Il me semble qu'il faudrait mieux un peu plus de propagande de preuves, d'apporter des questions, des suggestions qui puissent se rapporter à la classe ouvrière, surtout parmi les jeunes ouvriers. Ça tirerait
bien. Par exemple, comment vous voyez les choses enfin,
ben, d'organiser des discussions entre ouvriers à la Maison de la Culture. De défendre, je sais pas moi, la promotion, par exemple. Les possibilités de d'augmenter son niveau de vie par les études, tout en travaillant.
Vous avez déjà été à la Maison de la Culture, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont plu et d'autres qui vous ont choqué, par exemple, enfin, qui vous ont déplu?
Non, je trouve que tout est plusieurs sortes de distractions, quoi. Alors, chacun, suivant ses goûts, peut se... C'est bien, si tu veux
même. Bon, enfin, moi, je me dis, je trouve que c'est un peu réservé.
C'est-à-dire que la Maison de la Culture d'Orléans ne correspond absolument pas au niveau important de la ville. Elle est toute petite, elle est minuscule. Moi, j'y suis allée plusieurs fois, mais on a l'impression d'être tassé. C'est trop minuscule. Je pense que c'est bien la Maison de la Culture. Il faudrait pouvoir l'élargir rapidement.
Mais comment elle est organisée, etc. Enfin, il y a des choses qui vous déplaisent.
Non, absolument pas. Moi, je suis adhérente. Mais enfin, on manque de temps déjà. On ne la fréquente pas comme on voudrait la fréquenter. On manque de temps.
Bon.
Enfin, c'est une bonne formule. Je pense qu'il faudrait l'améliorer. Et puis... Mais il est. Il y a quelque temps, je crois qu'ils avaient fait des essais en direction des comités entreprise pour pouvoir jouer dans les usines. Les événements de mai et les choses ont tout arrêté.
Oui, c'était juste avant. Justement.
C'était juste avant. Ils avaient pris contact avec les comités entreprise pour aller jouer dans les usines. C'est quand même à retenir parce que c'est intéressant. Ça permet aux ouvriers de s'instruire agréablement.
C'est ça, les ouvriers, ça arrive, ils ont fait une... dure journée, alors fatigué, bah, le soir on va chez nous, quoi. On regarde la télévision, et puis voilà. Quoi. Puis le samedi et dimanche, on va se promener, la voiture, on va faire un tour. À la Maison de la Culture, bah, ça passe.
À votre avis, qu'est-ce que l'école devrait enseigner avant tout, devrait enseigner avant tout aux enfants?
Je pense qu'elle devrait s'adapter davantage à l'époque moderne où nous vivons. Par exemple, passer en vue des époques assez lointaines, enfin, sauf pour ceux à qui ça vraiment ça intéresse. Moi, ça m'intéresse, mais en fait, tout le monde, ça n'intéresse pas. Revoir le mode d'enseignement complètement.
De quelle façon? Est-ce que vous pouvez donner vos idées sur
ça? Ça m'est difficile de dire exactement, mais. C'est-à-dire que. Il faudrait apprendre rapidement aux écoliers, aux étudiants, aussi rapidement que les découvertes de ce qui est fait sur le plan mondial, et aussitôt le reporter dans les écoles. Enfin, je sais pas, le cosmos par exemple, enfin, bon, ça fait un bond formidable, mais où en est l'étudiant à la base, ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est peut-être une image, mais elle est grossière. Enfin, c'est surtout ça ce que je voulais dire. Et puis alors, ce qui est bien qu'on commence déjà dans l'enseignement, c'est le problème des rapports de sexualité. Moi, je pense que c'est important.
Et à votre avis, quelle est la qualité principale que doit posséder un professeur pour être un bon professeur?
La pédagogie. Il y a souvent il en manque.
Je crois qu'on va s'arrêter là. Il est un peu tard. Je vais vous passer un morceau de la main si vous voulez.